La peste. Souvenez-vous, écoliers d'autrefois, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Nul ne dira jamais, nul n'a jamais dit mieux que La Fontaine, en si peu de mots, aussi justement, aussi simplement, la terreur qu'inspira la peste, terrible châtiment de Dieu, terriblement meurtrière, et qui n'épargna personne alors. Comme on le sait, la première grande épidémie de peste se déclara en 1348 dans nos pays d'Europe occidentale. Elle avait été apportée par un bateau génois revenu de Crimée. C'était la fameuse peste noire, ainsi appelée parce que les cadavres des victimes noircissaient peu après la mort. Intervenue cette mort quelques jours seulement après une forte fièvre, des vomissements, des maux de ventre et des ganglions. De cette première attaque qui a frappé notre cité comme toutes les autres, nous n'avons conservé aucune relation dans nos archives. La soudaineté de l'épidémie, la nouveauté de la maladie surtout, l'intensité des souffrances et l'évolution très souvent fatale ont dû plonger dans la stupeur responsables et chroniqueurs locaux. Pensez bien, ils avaient autre chose à faire que de prendre des notes. Nous pouvons cependant imaginer, grâce à des relations postérieures, écrites au cours de nouvelles attaques de peste. Il faut savoir que c'est jusqu'au XVIIIe siècle que la peste sévira dans notre ville. Comment se manifestait le mal, ce qu'on faisait pour s'en préserver et les mesures sanitaires que l'on prenait. Ces documents dont je vais faire état sont extraits de l'un des deux recueils de coutumes de notre ville. Magnifique livre, couvert en parchemin. Un livre de vie de la communauté en quelque sorte. Avec ses textes manuscrits aux belles lettrines colorées et les nombreux petits récits hâtivement écrits relatant les événements marquants du XIVe au XVIe siècle. Ce texte est particulièrement instructif. Il décrit la peste, la cruelle pestilence, qui se manifeste par des bossos, c'est-à-dire des bubons provenant de l'infection des ganglions du cou, des aisselles, des aines. Dans un autre texte, on parle d'anthrax, donc d'abcès noirâtre. Ensuite, des malcaus, c'est-à-dire de fièvre. Enfin, la peste est très meurtrière, mourit grand peau. Et pourtant, ici, cette année-là, par la grâce de Jésus-Christ, pour cette fois, elle épargnera notre ville. Et voilà comment, par la toute-puissante autorité de l'Église, on va conjurer le fléau selon un rite minutieusement réglé. La foule immense des hommes et des femmes et des enfants, on en a compté, à certaines fois, jusqu'à 4000, emplit la nef de l'église abbatiale, où la lueur tremblante des grands cierges qui brûlent devant l'autel de Monseigneur San Antoni sème comme une lumière tragique sur les visages angoissés des assistants, qui psalmodient l'oraison prescrite au puissant et miséricordieux Rédempteur Nostre Seigneur Jésus Christ, le tout en languedoc bien sûr, afin qu'il nous protège de cette tempeste que sont bosses, anthrax et consomption de sang. Puis l'immense foule partira en grande procession à travers les rues de la ville, derrière les reliques vénérées du Saint Antonin, jusqu'aux portes principales par lesquelles entre la terrible maladie. Il y aura offrande, bénédiction. Des morts, hélas, il y en avait partout, dans les maisons, sur le seuil des portes, dans les rues. Il fallait les enterrer au plus vite, dans des fosses communes, hors de la ville. Le cimetière n'y suffisait plus. On murait les maisons infestées, on en brûlait les quelques meubles et les vêtements. Certains, les plus hardis, les plus osés, fuyaient hors de la ville, en troupeaux éperdus, se répandaient dans la campagne vers les hameaux où se présentait à leurs yeux le même spectacle de désolation et de mort.
Oui, monsieur Julien, est-ce que on peut estimer les dégâts que faisait la peste lors de chaque épidémie?
Lors de chaque épidémie, c'est difficile parce qu'il n'y avait pas un compte exact des morts. Les registres d'état civil n'étaient pas tenus à ce moment-là, il faut le savoir. Mais nous avons la chance quand même de pouvoir faire une estimation approximative. On peut considérer que la peste de 1348 fit des ravages épouvantables et dépeupla nombre de villes. Et cela, nous allons essayer de le déterminée grâce à deux références. La première, c'est un recensement officiel de 1341 fait avant la peste, à l'époque de la grande prospérité. Ce recensement dénombrait dans la ville de Saint-Antonin 1709 feux. J'ai expliqué la dernière fois. On pouvait considérer qu'un feu équivalait à 5 personnes, ce qui nous donnerait donc une population de 6000 à 8000 habitants. Et un livre de compte consulaire nous apprend qu'en 1377, donc bien après l'épidémie de peste noire, il n'y en avait plus que 900 dans la ville. 900 feux, je dis bien. Ce qui ferait à peu près entre 3600 et 4500 personnes. Il faut évidemment tenir compte, là, pour faire la comparaison, des ravages causés entre ces deux dates par les combats de la guerre de Cent Ans. Mais on peut raisonnablement penser que la peste noire a tué ici à Saint-Antonin au moins le tiers de la population, soit 2500 habitants au moins.
Comme M. Julien, par la suite, est-ce que les Saint-Antoninois on trouvait des moyens plus efficaces pour lutter contre la peste?
De toute façon, à partir de 1348, la peste continuera de sévir par intervalles plus ou moins rapprochés. Et l'expérience aidant, on trouvera peut-être les moyens. En tout cas, les manifestations de la peste seront favorisées tout au long du XIVe et surtout du XVe siècle par les terribles épreuves que constitueront les combats de la guerre de Cent Ans. Quand enfin, après maintes épreuves, on en arrivera à admettre l'inefficacité des prières et des processions, on adoptera la mesure simple, à laquelle on n'avait pas encore bien pensé, de l'expulsion des malades et de leur isolement. C'est alors qu'on construira, on établira plutôt, au-delà du pré commun, dans ce qui s'appelait alors Albuguette, et qui est le territoire compris entre la route de Caylus, le chemin qui descend du district EDF, et le chemin qui va au cirque de Nibouzou. Vous voyez ce quadrilatère? Eh bien ça, c'était le domaine réservé aux pesteux. On l'avait clôturé de palissades avec des épines, et tous ceux qui avaient un signe de peste, on va les conduire là, obligatoirement. Il n'y avait pas question de leur demander leur avis. On les expulsait de la ville, et là, ils disposaient de huttes faites de branchages dans lesquelles ils pouvaient s'abriter. Et tous les jours, des hommes étaient requis dans la ville, pas de bon gré bien sûr, et allaient porter là-bas la nourriture, la paille, quelques vêtements. L'eau, vous le savez, était à proximité puisqu'il y a le ruisseau de l'Escoutos-et-Plau qui coule tout le temps. C'était là qu'étaient les pesteux, et c'est là, chose drôle, qu'ils seront tout le temps jusqu'au XVIIIe siècle. Le terrain était loué aux gens qui en possédaient les terres, et quand l'épidémie de peste était passée, on brûlait les huttes. Pour les gens qui étaient alors morts dans leur maison, eh bien là, il n'y avait pas d'autre solution que de les faire ramasser leurs corps dans des chariots. C'était un spectacle épouvantable, conduit par des hommes, évidemment, qui acceptaient de faire cette tâche, et qu'on appelait les corbeaux, et qui allaient ensevelir les morts dans des fosses communes, et quelquefois au cimetière, là où on pouvait, des profondeurs telles que la pestilence ne se répande pas autour. Mais c'était toutes les mesures que l'on pouvait prendre. Le malheureux qui était soupçonné d'être pesteux, il était expulsé, un point c'est tout, et on brûlait ses vêtements. On murait la maison aussi, la maison était interdite.